Rapid Transfer International, l'application de transfert d'argent simple, rapide et sécurisée, vous présente Radio Foot International.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International sur RFI, bien sûr, dans ce studio où nous allons, eh bien, vous parler une fois encore de football. Et nous commencerons par évoquer les éliminatoires pour la CAN au Cameroun. Il ne reste que 5 places à prendre à cette heure. Certaines seront très chères et des équipes doivent encore batailler, comme le Bénin qui a loupé sa qualification à domicile, ou comme encore Madagascar. Dans le groupe E, qui de la Mauritanie, qui de la Centrafrique ou qui du Burundi l'emportera, là une place pour 3. Cette 6e journée sera donc joyeuse pour certaines sélections et cruelle pour d'autres. La théâtrale colère de Cristiano Ronaldo, auteur d'un but refusé par les arbitres. Le capitaine du Portugal a quitté le terrain avant le coup de sifflet final. Les hommes en noir ont reconnu leur erreur, mais ils n'ont aucune aide technologique pour finalement donner leur verdict. Rendez-nous donc la Goal Line Technology et la VAR. Qui l'aurait dit? Ça vous fait sourire à Viveil. Bonjour.
Énormément. Hein, bonjour Annie, bonjour à tous. Oui.
Que de débat pour en arriver à cette conclusion. On est d'accord avec Cristiano Ronaldo. Ousmane Dembélé, leader d'une équipe bis des Bleus, vainqueur au Kazakhstan. Mais une fois encore, l'équipe de France a manqué un pénalty. Et ça commence à faire beaucoup. Et nous en parlerons, mais ces messieurs sont très africains aujourd'hui. Bonjour Patrick Juillard.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Notre ami du site Foot Afrique 365. Et puis Hervé Penaud de l'équipe. Bonjour Hervé.
Bonjour à vous tous. Quel plaisir de parler de foot africain.
Hein,
et puis un peu de VAR, un peu de Golden Technology, tout ce que j'aime.
N'est-ce pas? Ça va être sportif. Alors, cette émission. Sarah Loubacouche m'a aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno est à la réalisation. Et donc, Radio Foot, c'est parti. Des encouragements pour les écureuils parce qu'ils s'y voyaient déjà au Cameroun en janvier prochain. À 30 secondes de la fin de la rencontre disputée à Cotonou, le match s'acheminait tranquillement vers un nul 0-0 qui les qualifiait donc pour cette compétition face aux Super Eagles déjà qualifiés. Un Bénin d'ailleurs qui n'a pas battu le Nigeria depuis 1959. Ce sont 17 défaites en 20 matchs, mais qui était quand même invaincu à domicile depuis 7 ans et qui possédait à cette heure la 4e meilleure défense en éliminatoire. Et puis patatras, il y a eu ce but du Nigeria signé Paul Onuachu qui venait juste d'entrer. La qualification se jouera donc en Sierra Leone. On va y venir. Mais d'abord, le Bénin, Patrick Juillard, a-t-il été trop fébrile face à l'enjeu?
Trop fébrile, je ne sais pas, mais trop attentiste, trop calculateur, trop prudent, certainement. C'est-à-dire que le Bénin est une équipe plutôt à dominante défensive. C'est une équipe qui est surtout forte pour tenir un score. C'est pas une équipe qui brille par sa créativité, son allant offensif. C'est plutôt un bloc solide. Et c'est comme ça que le Bénin a posé des problèmes à des équipes favorites lors de la dernière CAN jusqu'au
quart de
sortir
finale.
Le Maroc et aller en quart de finale, ce qui est un résultat historique. Le Bénin n'avait jamais franchi le premier tour. Donc ça a donné certaines certitudes à cette équipe sur sa qualité défensive, mais sur un match comme ça, c'était un jeu un peu dangereux de jouer cette tactique de l'autobus un petit peu, d'attendre en gros la fin du match parce qu'un point suffisait.
Et
comme le Nigeria, dans le même temps, s'est dit qu'ils ont joué le jeu,
c'est-à-dire... Oui.
Non, mais ils ne se sont pas dit, bon, on s'en fiche, on va faire plaisir à Michel Dussuyer. Non, ils ont joué un match de foot, ils ont voulu gagner parce qu'ils venaient de faire deux matchs nuls cet automne contre la Sierra Leone et Garnotroor n'était pas très content du relâchement de ses joueurs. Donc là, ils qu'ils ont voulu bien finir et c'est ce qu'ils ont fait à tous les sens du terme en marquant ce but assassin. Et Alagbe dans les buts a été vraiment excellent, mais il peut pas tout arrêter.
Hervé Penaud, on sait qu'ils ne marquent pas trop de buts, c'est leur défaut. Là, ils ont sans doute joué le 0-0, c'était un jeu dangereux.
Ah, ben c'est toujours un jeu dangereux de jouer un 0-0. Ou alors, il faut avoir vraiment des certitudes. Mais ce qui est bien, moi, j'ai trouvé déjà, c'est la latitude du Nigeria. Parce que vous savez, le Nigeria, ils ont joué la qualif pour tout le monde. C'est-à-dire que ça voulait dire aussi que la Sierra Leone pouvait se reposer d'une certaine manière sur un résultat du
D'ailleurs,
Nigeria.
Guerre
parce que souvent,
on
a connu des matchs où à 10 minutes de la fin, bon, les deux étant qualifiés, on s'en moque un petit peu.
On a entendu Guerre Notre Or sur l'antenne dire oui, je suis désolé pour mon ami du Suillet. Enfin bon,
on sentait c'est que du foot, il n'y a pas de sentiment.
Exactement, hein. Exactement. Et il n'avait pas du tout donné de consigne spéciale.
Absolument. Puis d'autant plus, ils ne sont peut-être pas amis. On les connaît, on ne sait pas, on ne connaît pas leur relation. Ce n'est pas parce qu'ils sont tous les deux français ou en tout cas Guerre Notre Or.
Non, mais c'est lui qui disait.
Oui, je sais
mon
bien,
ami,
je sais bien.
Michel Dussuyer.
Je sais bien, mais ils sont reposés sur logiquement ce qui fait leur force. Ce qui a fait leur force depuis la CAN, il ne faut pas oublier.
Oui.
Où ce qu'ils avaient découvert, c'est justement d'être capable de resserrer
leur
un petit
défense.
Peu les lignes, d'avoir une défense très forte et puis un ou deux joueurs devant qui essayaient à l'époque Michael Potter et puis maintenant évidemment Mounier. Steve Mounier qui est vraiment un peu le point d'ancrage devant et puis en espérant marquer des buts de temps en temps et surtout ne pas en encaisser. Les dernières minutes ne sont pas toujours favorables, vous savez. Rappelez-vous à la CAN, on parlait d'élimination du Maroc, c'est un pénalty raté de Ziyech à la dernière minute qui leur permet de se qualifier pour les quarts de finale. Donc parfois ça sourit pas toujours, mais je les crois quand même capables, même en Sierra Leone ce sera pas simple parce que là-bas c'est toujours compliqué, c'est un côté un peu traquenard.
Venons-y à cette sixième et dernière journée pour le Bénin. Un point à marquer, donc pour eux, c'était la mission en deux matchs. Donc maintenant, ça sera au moins un point dans ce match. Écoutons le sélectionneur, Michel Dussuyer, qui a donc dû se résigner à envisager ce scénario auquel il ne voulait même pas penser. Il est au micro de Félix Pépé-Lippé.
On a notre destin entre nos mains. Il faudra aller chercher moins un point là-bas à Freetown, contre une équipe de Sierra Leone qui sera évidemment extrêmement déterminé parce qu'ils jouent la qualification, ce qui serait historique chez eux, et dans des conditions difficiles. Mais c'est une équipe aussi qui n'a perdu qu'un seul match contre nous. Maintenant, on va se relever et être prêt pour le combat.
De Calonne, prêt pour le combat. C'est compliqué, Habib, de partir alors à l'extérieur, puisque ça se jouera à Freetime. On connaît le moment complexe qu'on vit tous. Et à Freetown, ça sera sûrement pareil. Mais un point dangereux.
Ils ont
faut aller gagner.
Un aspect positif, c'est qu'ils savent défendre. Ça a été leur force depuis maintenant des mois et des mois. Ce qu'on sait, c'est qu'en Afrique, pour avoir vécu beaucoup de matchs, et je pense que Hervé et Patrick on ont suivi, et vous aussi Annie, c'est que lorsque vous jouez comme ça des matchs couperet contre des équipes qui sont soi-disant entre guillemets plus faibles, c'est toujours très difficile. Je vous avais dit, il y a toute la préparation d'un match. La Sierra Leone va faire en sorte que cette préparation soit difficile forcément pour le Bénin. Je l'ai connu aussi. On est allé une fois jouer notre qualification en Zambie. On nous a mis sur un terrain qui était avec. Ouais, non, je pense que c'était un terrain de BMX avant d'être un terrain de football. Donc, soit vous êtes assez concentré, vous arrivez à gagner ces matchs. Alors, on peut toujours être assez confiant. Pour moi, cette qualification, il la rate contre la double confrontation face aux Lesotho. C'est-à-dire, c'était l'adversaire le plus faible du groupe, en tout cas le moins fort des quatre équipes. Et ils doivent gagner les deux. Et c'est vrai que ce match nul ne permet pas aujourd'hui au Bénin d'être dans une situation confortable. Même si quand vous avez trois points d'avance, malgré tout, bon, c'est l'exploit, c'est Sierra Leone qui doit le faire, c'est pas le Bénin. Mais ce qu'ils ont fait, c'est préserver contre le Nigeria. C'était un danger parce qu'en face, c'est le Nigeria, c'est pas n'importe quelle équipe. Il ne faudrait pas qu'ils soient dans la même attitude face à la Sierra Leone parce que forcément, au fil des minutes, la confiance sera forcément du côté de la Sierra Leone, à 0-0 je parle, que du côté du Bénin. Parce que vous savez pas, un coup de pied arrêté, un ballon qui traîne.
Ben oui.
Et je pense qu'il faut aborder ce match avec l'idée de le gagner et de bien le gagner. Maintenant, on l'a dit, le Bénin n'est pas reconnu pour être une équipe pour marquer énormément de buts dans son groupe. Mais bon, l'expérience de Michel Dussuyer doit aussi amener cette équipe du Bénin à être assez solide et en tout cas sereine pour ce match.
On a vu comme un concours d'inflation de primes pour les joueurs. Alors, au Sierra Leone, on va leur donner 20 000 $ s'ils se qualifient.
Vous avez eu confirmation de cette prime?
Non,
là
non.
C'est ce qui circule. Mais...
Voilà, c'est exactement peut-être beaucoup d'intox, justement,
d'avant-match.
J'ai
l'impression, parce que ça me paraît quand même beaucoup. Après, il y a un signe quand même qui va dans le sens de la Sierra Leone, c'est que ce match, au départ, part, aurait dû se jouer sur terrain neutre, parce que le terrain à Freetown avait été suspendu par la CAF. Il aurait dû jouer à Conakry, ce match. Donc ça, ça aurait plutôt avantagé le Bénin. Et finalement, après que la fédération sierra-léonaise soit intervenue auprès de la CAF a maintenu ce match à Freetown.
Avec une présidente qui a du poids.
Voilà, Isha Johansen, pour ne pas la nommer. Donc, je ne veux pas dire que ça va porter malheur au Bénin, parce que c'est normal que la Sierra Leone, à la base, reçoive chez elle, mais...
Il me semble qu'à Bangui aussi, j'ai un petit,
À Bangui, c'était pour des raisons d'état du stade et tout ça.
De la pelouse.
Et de la pelouse. Donc, je ne sais pas, mais je pense que Habib a raison. C'est aux Lesotho, à mon avis, que le Bénin a perdu gros en ne faisant qu'un match nul 0-0. Peut-être que... Il y avait moyen de faire mieux là-bas en prenant un peu plus de risques parce que on s'expose pas pareil face aux Lesotho que face au Nigeria quand on attaque.
Mais ce qui est important quand même, c'est qu'il faut, bon, faut rappeler le règlement, hein. Ça se joue sur des confrontations directes.
Oui.
Donc, il faut absolument que le Bénin marque un but. C'est ce que disait Habib.
Il y a eu un zéro à l'aller.
Donc, si vous marquez un but, là, ça va un peu vous rassurer. Parce qu'il faudrait pas être sur la fin de match à 0-0, effectivement, parce qu'avec cette sensation que vous soyez hanté par le souvenir du Nigeria.
L'histoire recommence, exactement.
Et en gros, la virage générale,
Le Bénin est devant.
Le Bénin est à plus 1 ou 0
Je vais reprendre.
Je crois que c'est moins 1 pour le...
Ils ont un but d'écart, mais à l'avantage du Bénin.
Exactement.
Je crois que c'est 0 et moins 1 ou plus 1 et 0. Je
sais pas. Parce que ça veut dire que s'il y a 1-0, d'un seul coup, tac, ça change.
Le doute s'immisce.
Alors, Sierra Leone a 4 points, mais c'est en fait 4 points obtenus en 4 matchs nuls. Il y a eu 0 victoire pour l'instant.
2 contre le Nigeria, quand même, ce qui est une belle performance, dont 1 après avoir été mené de 4 buts.
0 et moins 1.
Oui, voilà.
Pour le Bénin, moins 1
pour le Bénin a un avantage d'un but.
Non, ça veut dire. Ça veut dire que si y a victoire 1-0, hop, ça passe dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous soyez sous pression à la 90e minute sur un corner,
non.
Comme il s'est passé contre le Nigeria.
Voilà. Et puis ça va remuer des souvenirs, parce qu'ils ont déjà subi ça donc, samedi. Donc
effectivement, l'état d'esprit, c'est d'essayer de marquer un but, d'essayer de s'imposer. Là, si vous marquez un but, vous serez assez tranquille.
Oui, parce qu'on peut les contrer ensuite.
Et puis le Bénin, c'est pas une équipe à prendre 3 buts comme ça. Hein.
Ce qui doit être très bon aussi, c'est pour la Sierra Leone. Si vous êtes la Sierra Leone, si je suis l'entraîneur de la Sierra Leone ou même des joueurs de la Sierra Leone, c'est quand même assez excitant de se dire que bon, hier quand on voit le match du Nigeria face au Bénin, on se dit bon, là maintenant la Sierra Leone, c'est l'exploit. C'est-à-dire que ça crée de l'émulation pour un sélectionneur de dire, les gars, il y a une journée, on était presque enterrés. Là, on a quand même une opportunité,
une
de venir et une chance d'aller une à la Coupe d'Afrique des Nations. Et ça peut être un exploit retentissant. Donc ça, c'est aussi intéressant à mettre en lumière pour le Sierra Leone.
Alors à cette heure, 19 pays sont qualifiés. Le dernier à se qualifier, c'était tout à l'heure, c'était le Malawi.
Le Malawi qui revient en phase finale après 11 ans d'absence. La dernière participation, c'était en 2010. Et on se rappelle que lors de la première journée, ils avaient infligé un cuisant 3-0 à l'Algérie qui était arrivé un petit peu, qui s'était pas encore acclimaté au climat angolais.
Le match avait lieu très tôt.
Voilà. C'était quasiment à 14h ou 15h.
Il faisait à peu près 75 degrés. Donc, effectivement, les Algériens étaient un peu en difficulté. J'exagère, mais ils étaient très chauds.
Ils avaient été cueillis à chaud, comme on dit, au lieu de dire cueillis à froid.
Et je me demande si le match était même pas avant. C'est un truc midi 13h, 14h.
En tout cas, ils ont battu l'Ouganda, les joueurs du Malawi, par 1-0, et ça sera la troisième fois qu'ils iront à la CAN après 1984
Ils étaient dans 2010. La même situation que celle de la Sierra Leone. Ils devaient impérativement gagner.
L'emporter.
Ils l'ont fait. Et donc, l'avantage du terrain en Afrique, on dit avec le Covid, s'il y a ça a plus grand sens et tout, je pense qu'en Afrique, recevoir est
quand
important.
Voilà, autant que l'avantage du terrain, comme disait Habib, c'est de recevoir.
Oui.
Ce qui englobe quand même une plus large échelle.
C'est un package, quoi, comme on dit.
Oui, un large spectre.
Voilà.
Le Soudan a, lui, décroché sa place hier pour la CAN. C'était à Omdurman, mais en fait, c'est dans la banlieue de Khartoum. C'est à Khartoum. Aux dépens des Bafana et l'Afrique du Sud, le pays du nouveau président de la CAF, rappelons-le. Patrice Motsepe, sera le grand absent du sud du continent. Le Soudan a battu donc cette Afrique du Sud par 2-0. Et le sélectionneur est un Français, c'est Hubert Vélude, tout content au micro de Frédéric Suteau.
C'est exceptionnel parce que c'est vrai qu'on part de loin. Les trois derniers matchs de qualification, on a réussi à faire 3 victoires en mettant 5 buts et en concédant aucun. Contre deux gros, contre le Ghana et contre l'Afrique du Sud, donc c'est pas rien. Hein. C'est pas rien ce qu'on a fait. Hein.
Voilà. Décrivez-nous un petit peu ce qui se passe autour de vous, la fête, les joueurs dans la rue, c'est le Soudan qui revient à la CAN après 10 ans voilà, d'absence.
10 ans d'absence, c'est de la folie. Je crois que c'est pas, on pouvait pas faire meilleur cadeau au peuple soudanais parce que bon, vous savez que c'est un pays qui est en difficulté économique, il y a beaucoup de problèmes. Donc ça va amener un peu de sourire sur le visage des gens et ça, j'en suis ravi.
Et oui, la fête au Soudan, après la fête aux Comores et la fête au Gambie la semaine dernière. Une équipe qu'on appelle celle des Crocodiles du Nil.
Cette ouais, équipe ou les du Faucons Soudan. De Gédiane, il y a deux noms selon les obédiences. Mais
bon. On dira les Faucons. Non
moi, je dis plutôt les Faucons
c'est
de Gédiane.
C'est plus méchant que les Crocodiles, non.
Bon, les Crocodiles, non, si vous voulez, moi, ça me dérange pas.
J'aime bien Crocodiles, mais bon. En tout cas, ils avaient été quart de finale, finalistes.
Les Crocodiles, hein. C'est aussi le Lesotho, donc c'est pour pas les confondre.
Ah, bon, enfin. Alors on essaiera de pas les confondre.
Il y a beaucoup de lions aussi.
Enfin, les autos ne sera pas à la CAN, donc non. On ne confondra pas. C'est une équipe dont il va falloir se méfier, alors, Patrick Juillard.
C'est une équipe qui a été bien reprise en main par Hubert Velude. Oui. Et ce qui est amusant, c'est qu'il a remplacé le Croate Logaruzic sur le banc du Soudan, qui lui est parti au Zimbabwe et qui a qualifié le Zimbabwe dans la poule de l'Algérie. Donc en fait, les deux sélectionneurs qui ont dirigé le Soudan pendant cette phase éliminatoire seront tous les deux à la CAN. Et c'est amusant parce qu'ils
sont dans le même groupe.
Ils se sont félicités aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur leurs profils. Bon, c'était assez sympa à voir, assez fair play. Donc oui, Hubert Velude a constitué un groupe assez avec une belle cohésion en se basant sur les gros clubs du pays. Parce que les joueurs, il y a très peu de joueurs expatriés dans cette équipe. Il y en a 3 ou 4, mais là, tous à peu près évoluent dans le championnat national, voire en Égypte pour certains. Et il a fait quelque chose de solide et... On voit qu'il travaille bien parce qu'il ne les a pas eu tout le temps. Alors, plus que certains sélectionneurs qui jouent avec des diasporas, mais il ne les a pas eu tout le temps à cause du Covid et des restrictions et tout ça. Et il a su très vite donner une identité à cette équipe. Et hier, ils ont appliqué le plan parfait, c'est-à-dire marquer vite, attendre l'adversaire et le contrer. Et c'est ce qu'ils ont fait. 2-0 à la mi-temps, c'était plié. Ouais. Parce qu'en plus, l'Afrique du Sud, c'est quand même pas extraordinaire.
Ouais, mais malgré tout, ça reste exceptionnel ce qu'ils font. Parce que quand on regarde le troisième, je crois que c'est 10 points. Donc l'Afrique du Sud, donc finir avec 12 points dans un groupe et se qualifier dans un groupe, on a quand même des équipes qui sont donc le Ghana devant, on a le Soudan juste derrière, on a quand même trois équipes qui sont.
Oui, mais c'est parce que Sao Tomé a perdu ses 6 matchs.
Oui,
donc ça distribue.
Mais ce que je veux dire, c'est que ça prouve, et ils ont beaucoup marqué aussi, parce que je regardais, mais moi je ne suis pas le Soudan, mais je regardais forcément les statistiques. Lorsque tu finis une compétition avec plus 6 en termes de différence de but, ça prouve aussi que, bon, même s'ils en avaient mis 4 à Sao Tomé, mais ce que je veux dire, c'est que ça prouve qu'ils ont bien travaillé, parce que, on l'a dit tout à l'heure avec le Bénin qui marque pas beaucoup. Là, on est dans un groupe où, bon, c'est assez relevé. L'Afrique du Sud, on fait le constat maintenant, au bout de 6 journées, mais le constat de quelques années, c'est toujours une équipe qui joue et qui est assez difficile à jouer. Moi, je me rappelle d'avoir vu le Sénégal jouer l'Afrique du Sud. Ça n'avait pas été facile pour le Sénégal de se débarrasser de l'Afrique du Sud.
Techniquement, c'est bon, mais ils ont du mal à concrétiser leur temps fort, souvent l'Afrique du Sud. Ils marquent peu, en fait.
Ah non, mais l'Afrique du Sud, pour moi, c'est le plus gros désastre du football africain. C'est aussi simple que ça. Alors vous pouvez avoir la RDC qui est pas loin.
On parlait de la RDC tout à l'heure.
Mais la différence, c'est qu'en Afrique du Sud, vous avez absolument tout. Tout. Les structures, l'argent, les clubs, des terrains d'entraînement, des terrains pour jouer, un public, mais qu'est-ce que vous voulez plus?
Et
ils ont aucun résultat.
Et des beaux clubs en plus.
Ah oui,
des
un championnat incroyable, voilà. Avec des vrais derbys. Vous avez 50 000 personnes qui vont aller voir le derby de Soweto, vous avez du monde à
Cape Town. Et puis l'héritage de cette équipe. Il y a un héritage exceptionnel.
Il y a tout. C'est-à-dire, il y a tout, mais rien. Parce qu'au final, c'est l'une des équipes qui ne montre jamais rien.
C'est une déception
permanente.
Alors,
c'est pas
parce
qu'à la dernière CAN, ils ont fait un quart de finale.
Ils ont fait un coup d'éclat contre l'Égypte, en fait, en sortant le pays organisateur. Ça, c'était une grosse performance. Mais à part ça, effectivement, on n'a pas un souvenir ému.
Très instable du côté des entraîneurs.
Oui, absolument.
Non, mais c'est très incompréhensible. Les entraîneurs, par exemple, ils sont payés, mais très, très cher. Vous avez vu des entraîneurs payés en Afrique du Sud, mais des sommes qu'on ne donne même pas dans des pays européens. Et au final, rien du tout. Je me souviens du Portugais quand il était venu, même son
Il y a eu
Parreira est arrivé avant la Coupe du Monde.
Oui, là, c'était le sélectionneur.
Sélectionneur. Et on avait même évoqué son salaire à l'Assemblée nationale. Il disait à un moment, il faut avoir même des résultats pour donner autant d'argent.
Il était champion du monde de 94. Patrick, juste pour terminer, c'est Hubert Velude.
C'est super.
C'est une belle récompense parce que lui,
il avait qualifié le Togo en 2010 et il avait été privé de cette phase finale dans les conditions atroces que l'on sait. Il avait vu son adjoint mourir à ses côtés dans le bus
dans
à Cabinda. Donc bon, c'est pour lui d'autant plus, c'est une double satisfaction en quelque sorte, parce qu'il va représenter le Soudan évidemment, mais il m'a dit ce matin, je l'ai interviewé, il m'a dit qu'il a immédiatement pensé au Togo après la qualification et qu'il se battrait aussi pour ceux qui avaient perdu la vie lors de cet attentat.
Ça lui fait un beau palmarès aussi, hein.
Ah oui,
entre le TP la Coupe de la CAF,
plusieurs fois champion d'Algérie, Super Coupe de la CAF. Ouais,
ouais. Enfin, je suis content pour lui parce que ça n'a pas toujours été facile. Il a eu des périodes plus compliquées et franchement, là ce qu'il a fait avec une équipe, n'oublions pas qu'il y a aussi, comme tu disais, il y a beaucoup de locaux, il y a beaucoup de joueurs qui étaient au Chan, ils ont beaucoup de joueurs qui ont l'habitude de jouer les uns pour les autres. Ça change beaucoup de choses. Il a fait du bon boulot.
Pour la suite, alors, en oubliant Sierra Leone-Bénin dont on a déjà parlé, il y a 4 autres matchs qui sont importants pour 8 équipes. Et alors, on a fait un distinguo entre les équipes où il y a les groupes où il y a une place pour 3 équipes qui peuvent encore se qualifier. Et après, on verra une place pour 2. Alors déjà, dans le groupe E, eh bien, on a la République centrafricaine qui va recevoir la Mauritanie. Le Maroc, déjà qualifié, reçoit le Burundi. Et RCA, Mauritanie, Burundi peuvent se qualifier, Hervé.
Alors là, je serais quand même un petit peu surpris parce que vu que c'est un peu tendu au niveau du Maroc, hein, les gens n'ont pas tellement apprécié le match en Mauritanie.
C'est le moins compliqué. Et Vaïd en premier lieu.
Et Vaïd en premier lieu. Donc je pense qu'il va légèrement remonter les bretelles. Donc si le Burundi s'imposait au Maroc, là ce serait dur pour les Marocains.
Je serais extrêmement surpris
si le Burundi s'imposait
au Maroc.
Burundi qui était à la dernière CAN, sa première participation.
Moi, franchement, c'est un plan personnel, mais là c'est plutôt le cœur qui va parler. Mais j'aimerais bien que la Centrafrique aille en
Coupe d'Afrique.
Ils n'ont jamais participé. Ils ont vécu des moments quand même terribles. Donc s'ils pouvaient avoir une participation, ça rappellerait un peu, on parlait tout à l'heure du Soudan, des pays comme ça qui ont eu des difficultés, ce serait génial. Et puis un petit mot pour Kondogbia a quand même choisi la nationalité centrafricaine.
Qui est capitaine de cette équipe.
Lui qui pouvait être en équipe de France encore. Parce que quand il a décidé, il avait 24-25 ans, c'était pas du tout quelqu'un qui était rayé des cadres. La preuve, il est quand même à l'Atlético Madrid. Donc c'était quelqu'un qui avait possibilité d'avoir une équipe de France. Il a décidé d'aller jouer pour un pays où il n'avait quasiment aucune chance de faire une compétition majeure. À l'époque, il n'y avait pas 24 équipes. Hein, et il n'avait quasiment aucune chance de le faire. Et ben, il est allé, il a donné tout ce qu'il avait. Et ben, bravo, moi je trouve que c'est un exemple incroyable.
Je suis d'accord.
C'est magnifique.
La Centrafrique, qui avait une bonne équipe locale, qui a fait un bon chan dans le jeu en tout cas.
Oui.
Et qui travaille depuis longtemps. Parce
et
que quand
qui aide cette équipe en fait, qui
est ressortie un peu
équipe.
De nulle part fin des années 2000, début des années 2010. Il y a eu un gros travail de, comme un peu ce qu'ont fait les Comores, de détection des talents binationaux et ils ont monté une vraie équipe avec, chez les joueurs, hein, une volonté de retrouver leurs racines en même temps, qui fait que c'est pas une équipe de mercenaires, c'est
avec
pas
François
une équipe
Zaoui,
de gens naturalisés comme ça en 5 minutes.
C'est vrai que Zaoui qui a la tête, c'est bien parce que c'est finalisé.
Et c'est quelque chose qui est important et moi je pense qu'ils peuvent le faire. Et déjà contre le Burundi, là, lors de la précédente journée, ils menaient 2-0, ils auraient pu déjà faire un grand pas.
Le groupe F, alors là on a Mozambique, Cap-Vert, Cameroun, Rwanda, le Cameroun déjà qualifié mais aussi qualifié d'office, et puis on a les autres. Alors là, la mission, c'est gagner. Mozambique, Cap-Vert, Rwanda.
On dit ce qu'on aime.
Pronostic.
j'ai regardé un peu les buts du Cap-Vert contre le Cameroun. J'ai pas vu le match, hein, pour tout vous dire. En revanche, les buts, c'est assez impressionnant. Avec un Ryan Mendes encore, on l'avait pas vu depuis très longtemps.
L'ancien
Donc, revoir ce pays-là, la CAN, ça peut être pas mal.
Bleus,
mais le Rwanda, c'est beau aussi parce qu'ils ont fait tellement pour le sport en général ces dernières années en Afrique.
Ça va être
donc
dur contre le Cameroun.
Quel Cameroun? Parce que le Cameroun, ils ont intérêt à se reprendre parce que la pression va être tellement énorme durant leur CAN. Il va falloir que les joueurs soient un petit peu plus présents aussi.
Alors, les groupes où il y a une place pour deux, on a le groupe K, Madagascar, Niger, comme match, Habib. Et de l'autre côté, on a Côte d'Ivoire, Éthiopie, la Côte d'Ivoire qui vient de battre le Niger chez lui. Et alors, Madagascar ou l'Éthiopie, entre les deux? Parce que l'Éthiopie a mis un 4-0 à Madagascar et du coup Madagascar est en danger aussi.
Oui, Madagascar est en danger.
Eux qui avaient aussi épaté
à la dernière CAN. C'est vrai que mais l'Éthiopie aussi aujourd'hui est assez impressionnant. Donc c'est vrai que il faudra être très très fort pour Madagascar. Mais encore une fois, j'aime bien les belles histoires. Donc encore une fois, bon, on s'est dit. Madagascar a eu son histoire. On peut aussi avoir une histoire avec l'Éthiopie. Je trouve que c'est aussi assez frais, donc c'est bien.
Ouais, mais ça va être dur. Ça va être dur parce que la Côte d'Ivoire, c'est, aujourd'hui, c'est assez costaud. Ce qu'ils ont fait au Niger, franchement, ils ont fait un match de très bon niveau. Parce que gagner 3-0 comme ça au Niger, c'est pas simple.
Oui, et puis gagner 3-0 facilement.
Oui, facilement.
C'est pas à l'arrache. Quoi.
Et avec un groupe qui se forme petit à petit, avec Patrice Baumel qui fait un très bon travail. Franchement, c'est une équipe. Attention, on n'en parle plus tellement de la Côte d'Ivoire parce qu'on a l'impression qu'il y a pas mal de gens qui sont partis. Mais il n'y avait pas l'air parce qu'il a le Covid, donc il n'a pas pu venir. Il manquait des joueurs. Aurier a fait peut-être l'un de ses meilleurs matchs en sélection.
Il a marqué.
Un but de passe décisive. Franchement, attention, il faut regarder cette équipe de Côte d'Ivoire. Les éléphants peuvent pas rire.
Je pense qu'ils ont pris, beaucoup de confiance lors de ce déplacement. Et à mon avis, l'Éthiopie, qui dans le jeu a fait des belles choses aussi contre Madagascar, parce que c'était pas, c'était très construit ce qu'ils faisaient. Ils avaient une bonne utilisation du ballon.
Il n'y avait pas qu'une histoire d'altitude, effectivement.
Oui, il n'y avait pas que l'altitude et la qualité médiocre du terrain, qui est d'ailleurs là, médiocre pour les deux équipes. Mais ça va être compliqué pour moi. La Côte d'Ivoire est un ton au-dessus et ne déçoit pas sur ces derniers matchs.
Le dernier, c'est ça se jouera entre la Guinée-Bissau et le Congo-Brazza. Les Diables Rouges.
Difficile.
Vous faites la grimace.
Je fais la grimace pour le Congo.
Ils peuvent se contenter du match nul.
A raté le coche.
Ils peuvent se contenter du nul.
C'est une équipe qui propose pas grand-chose. Ils viennent de changer de sélectionneur. Il a fait quelques choix forts lors du dernier match, notamment en ne titularisant pas Silver Gamvoula en attaque, qui d'habitude est un peu le pivot de l'équipe, enfin l'équivalent de Mounier, quoi, en gros, le grand attaquant de taille de la tour de contrôle offensive. Ça n'a pas tellement réussi, enfin, ils n'ont pas marqué, ils n'ont pas créé beaucoup de jeux, donc la Guinée-Bissau, c'est simple, elle est chez elle, elle doit gagner. Elle a l'habitude d'être dur à battre chez elle.
Bon. Elle était à la Coupe du Gabon en 2015.
Moi, je dis que tout va bien dans ce groupe.
Sénégal et les voisins.
Tout va bien dans ce groupe.
Ouais.
Ça va très très bien.
Le Sénégal ne sort pas d'une performance exceptionnelle.
Non, je sais. J'en ai entendu parler, Hervé.
C'était
en ce moment, ça manque de. C'est étonnant. Il y a beaucoup de très bons joueurs, mais pour l'instant, il va falloir trouver
le bon rythme.
L'alliage.
En tant que somnifère, c'était bien. En tant que match de foot, un peu moins.
Je suis tout à fait d'accord. Mais voilà.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure au sujet des éliminatoires. Alors en Afrique, mais moi, je veux bien l'élargir à l'Europe. Il n'y a pas de match.
Le contexte est compliqué pour tout le monde.
On l'a vu,
j'ai parlé avec Lamine Diatta qui s'occupe un petit peu de la coordination de l'équipe. Il me dit que c'était très difficile pour. Il y a des joueurs qui ont été bloqués, qui ont été débloqués dans un deuxième temps, de savoir comment ils allaient rentrer. On se rend pas compte, mais tout ça pour des sélectionneurs, ça ajoute un stress. Et pour un sélectionneur, c'est très difficile à gérer.
Surtout une équipe déjà qualifiée en plus.
Exactement.
Puis là, il a fait des essais. Il a voulu voir certains nouveaux qui ont été mis. Des joueurs qui jouent pas non plus spécialement en club.
Dont Balotouré, Abdou Diallo. Les côtés surtout.
Côtés plus. Comment on appelle Ismendi,
qui vont comprendre aussi ce qu'est le football africain.
Exactement, c'est une bonne idée de la part d'Aliou Sissé.
La première fois que vous arrivez en sélection, c'est pas la qualité technique qui vous choque, c'est l'atmosphère, c'est tout ce qu'il y a autour et le contexte, l'engagement, les terrains, on en a parlé, il faut vraiment s'adapter. Donc ça prend du temps, on n'arrive pas en première sélection, dire ça y est, je suis adapté au football africain. Le football africain, c'est. Comme vous arrivez du Brésil en Europe, il faut du temps pour s'adapter. Et c'est vrai que pour ces joueurs-là, même s'ils sont titulaires dans leur club, il y aura un moment d'adaptation.
Parce qu'Abdou Diallo, c'est un sacré choix. Pour le.
Oui, on en avait parlé l'autre jour.
Surtout gaucher, tu as Koulibaly à droite, tu peux ramener. Bon, tu as plein de solutions, il t'apporte beaucoup de solutions.
On y reviendra évidemment dans Radio Foot et puis avec nos confrères du service des sports dans les journaux des sports. Allez, un petit crochet maintenant par les éliminatoires européennes.
Le ballon est rentré, non, deuxième chance, Bernardo Silva. Et là, par contre, Monsieur McAuley va aller donner une carte jaune à Ronaldo. Mais j'ai l'impression que ce ballon est rentré. Et encore une fois, la technologie aurait pu nous aider cette fois-ci. Carte jaune pour Cristiano Ronaldo. Oui, bon, elle est ça dedans. Je pense que Cristiano Ronaldo exagère un petit peu tout de même.
Il exagère, Cristiano Ronaldo, il a piqué une grosse colère en mondiovision, peut-on dire, lors du match nul entre le Portugal et la Serbie. On va y revenir à Cristiano Ronaldo, mais d'abord les faits, c'était un match qui s'est terminé sur 2-2. Et en fait, dans les dernières secondes du match, le numéro 7 de la sélection portugaise a donc le but de la victoire au bout du pied. Il l'a même inscrit, en tout cas c'est ce que nous montre depuis toutes les images de la rencontre. Mais l'arbitre ne l'a pas vu, n'a pas validé le franchissement de la ligne.
Italien. Cristiano donc a réclamé avec véhémence et il avait raison. D'ailleurs, l'arbitre néerlandais s'est excusé auprès du sélectionneur Fernando Santos.
L'arbitre lui-même s'est excusé auprès de moi et il m'a dit qu'il était gêné. Sur le terrain, j'ai dû m'énerver, il m'a répondu qu'il regarderait les images et que s'il s'était trompé, il viendrait s'excuser. Et c'était le cas, c'est déjà la deuxième fois pour le Portugal. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas la goal line technology, mais c'est pour ça qu'il y a le VAR et la technologie de ligne de but, pour éviter cela, car la balle était plus que rentrée.
Pas de chance pour son 1000e match à Fernando Santos. Des excuses tardives, mais surtout 2 points en moins pour une course à la Coupe du Monde. C'est quand même important, Habib.
Oui, c'est très important. On comprend le mécontentement de tous les acteurs de ce match. L'arbitre a reconnu son erreur. Elle était visible pour nous. Peut-être que pour lui, elle a été un petit peu moins sur l'instant, puisque je ne vois pas comment il aurait pu prendre cette décision en se disant « Non, ça m'intéresse pas d'accorder le but ». Je pense que réellement, ils n'ont pas vu. Après on reviendra sur le VAR, mais je pense que le VAR
vient, parce que franchement on comprend pas tellement bien c'est pourquoi il y a pas de VAR ou au moins la fameuse goal line technology.
C'est un problème économique, c'est-à-dire qu'il y a tellement de matchs sur ces qualifiers que aujourd'hui mettre le VAR ou même la goal line technology coûterait un montant.
Parce que la goal line technology, c'est donc cette ligne, cette lecture, on va dire, virtuelle, et qui fait vibrer la montre de l'arbitre. Mais ça, c'est un minimum. La VAR, on sait que c'est plus compliqué, mais.
Mais non, en fait, ce qui est dérangeant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a sélectionné des compétitions, on a hiérarchisé l'importance des compétitions.
Exact.
On l'a dans tous les championnats aujourd'hui européens, on l'a sur la Ligue des Champions, et puis d'un seul coup, on regarde, on se dit, bon, elle n'existe pas sur les qualifiers, elle n'existe pas en Afrique,
elle n'existe pas sur la Coupe de France,
sur la Coupe de France, et on se dit, où est l'uniformisation, en fait, d'une règle? Parce qu'à un moment donné, le VAR devient un outil pour l'application de la règle. Moi, ça me pose un problème. C'est-à-dire qu'en gros, on vous dit, il y a une règle sur cette compétition. Mais par contre, si tu as envie, là, sur le coup de pied arrêté, tu peux tirer le maillot parce que de toute façon, il n'y a pas le VAR, tu te feras jamais attraper. C'est-à-dire, tu peux même avoir cette main qui sort, c'est-à-dire, tu vas plus défendre comme ça parce que tu peux défendre comme ça, t'inquiète pas, il n'y a pas le VAR.
Il verra pas.
Donc, en fait, on change l'application de la règle parce qu'il n'y a pas l'outil. Et moi, ça me pose un problème aujourd'hui. Parce que on peut pas demander à un joueur de switcher tous les 3 jours ou toutes les semaines.
Exactement.
De se dire, ah là, par contre, là, il y a un outil qui peut m'attraper, là, il y a un outil que je peux éventuellement contourner parce qu'il n'est pas là. Moi, c'est ça qui me pose le plus grand des problèmes. Et l'idée économique m'ennuie aussi parce que.
Vous n'êtes pas convaincu.
Non, je suis pas convaincu et je comprends par contre. Le mécontentement de Cristiano Ronaldo, par contre, le geste, pour moi, est inacceptable.
On va y venir à l'attitude de Cristiano, mais la VAR vous manque, vous aussi, Hervé?
Ah, mais moi, de toute façon, je suis un pro-VAR.
J'ai
donc
vu
là,
votre tweet.
Oui, mais moi, de toute façon, j'ai toujours défendu la VAR.
La goal line, tout.
Je
tout
comprends
me
même pas qu'on soit contre, moi. C'est un truc qui me.
Et donc,
je
vous comprenez pas.
Moi, je pense qu'il faut toujours
être nuancé, Hervé.
Hein?
On peut être nuancé.
Ben, il y a peu de nuances là-dessus. Hein. C'est soit pour, soit contre. Après,
on commence à s'y attirer. Mais pourquoi habituer tant les joueurs que les spectateurs, en fait?
Non, mais ce qu'il faut, si vous voulez, pour moi, être contre la VAR, je ne vois pas comment on peut l'être aujourd'hui. En revanche, être pour une meilleure utilisation de la VAR, oui, ça, c'est notre débat. Évidemment, on veut tous que ça améliorer l'utilisation de l'outil. C'est-à-dire que sur des hors-jeux, par exemple, 95% des cas... Alors, pour 2 cas qu'on nous montre à 3 cm près, 95% des cas, c'est valable. Des pénalties, très souvent, c'est valable. Après, comme c'est la décision de l'arbitre.
Mais ça aurait été la goal technology ou ça aurait été la VAR?
Non, c'est pas la VAR,
là,
c'est la goal line technology.
Hein,
puis là, c'est facile.
Validé le but.
Voilà, c'est très facile. Le bracelet de l'arbitre aurait sifflé, puis c'est déterminé. Non. Mais je vois pas tellement l'intérêt d'être contre. Simplement, on peut améliorer comme en rugby. On entendrait, par exemple, l'arbitre parler avec son assistant. Tout de suite, ça permettrait de comprendre un peu la
discussion. En Amérique du Sud, ils le font déjà.
Non, mais justement, je pense que là, c'est le cas précis où la VAR est utile et incontestable, c'est les franchissements de ligne, la ligne de hors-jeu. Pour peu qu'on règle le problème de savoir à partir de quand on est hors-jeu, est-ce que c'est 3 mm, est-ce que c'est le pied, est-ce que c'est bon, voilà. Mmh. Et la ligne de but, là, c'est dedans ou c'est pas dedans. Maintenant, on peut pas, sur les pénalties, par exemple, ça reste plus. Pour moi, la VAR n'est pas une solution absolue.
Non, mais ça l'est pas. Ça l'est pas.
On va faire un débat sur la VAR. C'était juste là dans ce contexte.
Par contre, ça dédouane, Annie, je pense, les arbitres, parce que les arbitres qui étaient habitués, en fait, à courir, justement, pour se placer au niveau de la ligne, pour voir si le but est rentré ou pas. Maintenant, avec le VAR, mine de rien, ils n'ont pas besoin de faire cet effort ultime pour aller voir, parce qu'ils savent que de toute façon, la goal line technologie ou le VAR
surveille,
va leur donner cette information.
Attention.
Sauf qu'on va, on va quand même demander aux arbitres aujourd'hui, pareil, à chaque compétition, de s'adapter parce qu'ils n'ont pas l'outil.
Mais attention, parce que moi j'avais demandé à Pascal Garibian, qui est le chef de tous les arbitres français, j'avais demandé, parce qu'ils sont notés, parce que le problème, il faut savoir que les arbitres sont notés, comme les joueurs. Bon, ils sont notés. Donc ce qu'ils veulent, c'est les bonnes notes, évidemment, pour pouvoir arbitrer après et puis gagner leur vie et faire des bons matchs. C'est logique. Mais ils ne sont pas notés avec la VAR. Ils sont notés sans la VAR. Oh, c'est logique, parce que ce serait trop simple sinon. Parce que si vous attendez chaque fois que la bonne décision vienne de la VAR, ben dans ce cas-là, vous êtes un arbitre tranquille. Donc ça veut dire qu'on dit souvent que ça déresponsabilise les arbitres, ce qui est possible. Peut-être que certains se sentent déresponsabilisés. Je ne dis pas le contraire. Mais en tout cas, pas pour les notes qu'ils peuvent avoir. Donc ça veut dire qu'ils ont intérêt à faire leur match, eux, parfait. Parce que s'ils sont repris trois fois sur leur décision, ça veut dire qu'ils ont fait un mauvais match.
Ouais, bien sûr.
Bon, en tout cas, ce qui fait parler quand même, en dehors du fait qu'il n'y ait pas d'aide technologique aux arbitres, eh bien, c'est ce geste d'humeur de Cristiano Ronaldo, sa colère donc contre l'arbitre. Et puis surtout, il a décidé de quitter le terrain avant le coup de sifflet final. Il a aussi jeté son brassard de capitaine sur le bord du terrain. Habib, Cristiano Ronaldo, en plus capitaine d'une équipe européenne qui est le Portugal, qui fait ce geste alors qu'il est regardé et adoré par des millions de gens.
Tenant du trophée.
Est-ce que vous...
En fait, il faut aller même très loin. Il n'y a rien de pire pour moi, pour un footballeur, lorsque vous avez une tunique, qu'elle soit de club ou encore plus, pour le coup, de votre nation, déjà, c'est parce qu'il enlève son brassard. Être capitaine d'une nation, j'ai eu la chance de l'être pour mon pays, le Sénégal, c'est l'une des plus grandes fiertés qu'on peut vous donner. C'est-à-dire que vous êtes le digne représentant, à ce moment-là, d'un pays. Lorsque vous êtes capitaine en club, ça n'a rien à voir en termes de pression de ce que vous pouvez supporter lorsque vous êtes capitaine d'une nation ou d'un pays. Et je pense que Cristiano Ronaldo n'a pas, à ce moment-là... visualiser ce que ça pouvait représenter d'être capitaine du Portugal. En faisant ce geste, moi je comprends le mécontentement,
oui.
Par contre son geste est inacceptable. Pour deux raisons, d'une il ne respecte pas le jeu, parce qu'en partant avant la fin d'un match, c'est-à-dire il quitte son équipe, il ne respecte pas ses coéquipiers.
En plus il n'a pas le
parce
droit.
Que... Non mais déjà d'une il n'a pas le droit, il ne respecte pas le jeu parce qu'il n'a pas le droit de le faire, mais il ne respecte pas ses partenaires parce que peut-être que pour 10 de ses partenaires, voire ceux qui étaient sur le banc, c'est un privilège d'être sur le terrain. Et lui décide en fait sur un mécontentement de quitter le terrain. Et si je suis sur le banc de cette équipe du Portugal, j'irai voir Cristiano Ronaldo qui pourrait être un ami, je pense qu'ils sont tous amis avec lui, et lui dire par contre Cristiano, sur ça moi je te suis pas. Pour deux raisons, c'est que moi j'étais sur le banc et j'aurais aimé être à ta place.
Exactement.
J'aurais aimé vivre cette frustration parce qu'à un moment donné elle est... Ouais. Mais toi tu l'as vécu et surtout tu es le digne représentant de cette équipe, de ce pays, mais également de nous. Et je trouve que pour l'homme qu'il est, le digne représentant du football, parce que c'est un joueur extraordinaire, et les gamins qui regardent, l'image, elle est catastrophique pour le sport. Je pense qu'il faut être dur sur ça, sur le jugement qu'on a sur le geste de Cristiano, pas parce qu'on se dit que ça peut pas nous arriver, ça peut arriver à tout le monde, mais on peut pas dire que bon bah c'est Cristiano Ronaldo. Pour moi, il a fait un peu sa diva, et c'est un acte personnel et qui ne pense pas aux autres. Et ça me pose un problème, parce que quand on dit qu'il est individualiste, je ne pense pas que ça soit un joueur individualiste, parce que quand on le voit et ce qu'il fait à l'intérieur de ses équipes, il ne l'est pas. Mais là, sur ce coup-là, il l'est complètement.
Je suis d'accord, globalement, bien sûr, Cristiano Ronaldo est un joueur extraordinaire et qui a su s'épanouir dans des collectifs sans tirer la couverture à lui. Mais là, depuis quelques matchs avec l'équipe nationale du Portugal, il a tendance à un peu jouer, entre guillemets, pour sa gueule. C'est
ouais,
un peu brutal.
On se souvient quand il a eu le Covid la dernière fois pendant la Ligue des Nations, tout ça, où il agissait dans son coin.
Et je trouve qu'il rend pas service à son équipe, parce qu'il y a d'autres super joueurs dans cette équipe. Il y a une animation offensive. Et là, je trouve qu'il veut à tout prix chasser des records individuels. C'est moins bon.
Et ça,
j'ai l'impression qu'il est un peu gagné par un certain énervement. Il est plus irritable. Il aurait dû passer au-dessus de tout ça, normalement. Mm-hmm. Surtout que c'est pas non. Mais ils ont pas perdu. Ça leur fait pas perdre le match. Ils perdent deux points. Ils perdent pas trois points.
Ça dit beaucoup de ce qu'il est, surtout. C'est-à-dire qu'il a quoi, 37 ans. Il a une obsession de la victoire qui est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il est Cristiano Ronaldo parce qu'il est comme ça aussi. C'est-à-dire qu'il refuse absolument tout. Il refuse ce geste. Et là, je suis ce que disait Habib, tout à fait 100% d'accord. Hein. C'est-à-dire que c'est irrespectueux pour ses partenaires, c'est irrespectueux pour le jeu. Mais il n'empêche que ça veut quand même dire que pour lui, si vous voulez, c'est pas du tout un joueur en fin de carrière. Il a envie de gagner des titres comme s'il avait 20 ans.
Ouais, il a envie encore de se qualifier.
Et de marquer un but de plus.
Pour la prochaine Coupe du Monde. En tout cas, l'article 11, on a cherché Sarah Loubalo Couche m'a aidé. L'article 11 du code disciplinaire
elle
de la FIFA évoque le comportement offensif, mais la violation des principes du fair play financier. Alors, ça veut dire qu'il pourrait peut-être être sanctionné par la FIFA, mais en même temps, comme il y a quand même eu l'injustice faite aux Portugais, on se demande si elle sera indulgente ou
ben,
pas.
Il ne faut pas, justement. Il faut pour moi qu'elle soit décontextualisée. C'est-à-dire que l'injustice ne doit pas amener un comportement comme celui-ci. Moi, je vous dis, je comprends le mécontentement, je comprends même la colère, je comprends tout, toute la frustration.
Mais
encore une fois, je ne juge pas ça. Je juge l'acte d'après,
bien sûr.
Qui pour moi, en fait, n'est même pas un acte contre les arbitres ou contre le. C'est un acte contre sa sélection et contre ce qu'il est lui en tant que capitaine. C'est ça qui est dingue. C'est qu'il n'a pas acheté un drapeau de touche, il n'a pas acheté un panneau publicitaire. Il a pris son propre brassard de sa propre nation. C'est ça qui est dingue. Et je trouve que c'est encore plus fort de voir ça.
Bon, ils ont fini à 10 en tout cas, et ça a fait 2-2. Dans le groupe A, donc, le Portugal, bien champion en titre, est en compagnie de la Serbie, je vous le rappelle, qui est première du coup, le Luxembourg, l'Azerbaïdjan et l'Irlande. Et puis, il y a un certain groupe D.
Ah, bon ballon, bon contrôle.
Oh, ça aussi, c'est beau, ça. Ça aussi, c'est un bon ballon. Ousmane Dembélé, voilà, le verrou a sauté. Le verrou a sauté avec Pogba au départ. Martial pour le relais intelligent. Et Ousmane Dembélé pour l'ouverture du score. 1-0 pour les Bleus.
Un but de Dembélé et donc victoire 2-0 finalement. Les Bleus ont encaissé les 3 points de la victoire. C'est mieux donc que face à l'Ukraine l'autre jour au Stade de France. Pour ce qui est du match, c'était une équipe bis, on va dire, des Bleus. Didier Deschamps avait procédé à 9 changements. Seul Griezmann et Loris encadraient cette équipe partie donc jouer au Kazakhstan. C'est la première fois que l'équipe de France va jouer à 5000 km de l'Hexagone. Alors c'est pas l'Europe. C'est l'Asie, mais c'est une équipe qui a choisi en 1994, donc à l'éclatement de l'Union de l'URSS, les républiques soviétiques, de se rattacher d'abord à l'Asie, puis finalement ils sont revenus vers l'Europe en 2002, ce qui fait que ça fait du voyage pour nos Bleus. Ousmane Dembélé, ça a été la locomotive de cette équipe bleu bis, Habib.
Moi, déjà, j'aime pas le bleu bis parce que quand on voit les joueurs qui sont dans cette équipe, c'est assez impressionnant. Mais vous avez raison de dire que c'était beaucoup de changements pour
Didier
Deschamps, et c'était voulu.
Oui.
Je trouve qu'il est très très bien depuis maintenant quelques semaines, j'irais même quelques mois. Il a mis des choses en place pour ne plus se blesser.
C'est au bon moment avant l'Euro.
Oui, oui. Puis c'est un joueur qui aujourd'hui a démontré toutes ses qualités. On l'a vu face au PSG. Il a posé énormément de problèmes aux Parisiens. Il a manqué de réussite. Je pense que encore une fois, il est en train de revenir à un très très haut niveau. Et si on doit parler, moi je parle de Dembélé comme le joueur, pour moi, le plus talentueux intrinsèquement sur tous les joueurs qui composent cette équipe de France, même sur le plan offensif. Je trouve que techniquement, par exemple, il est plus doué qu'un Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, si on compare les deux joueurs, je prends Kylian Mbappé. Mais techniquement, intrinsèquement, dans ce qu'est capable de faire un Ousmane Dembélé, en pleine possession de ses moyens, pied droit, pied gauche, dans les choix qu'il fait technique, c'est un joueur qui est hors norme. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on regarde Griezmann, c'est un tout autre joueur, c'est pas les mêmes profils, mais je regarde Dembélé, je me dis, mais lui, quand je le regarde contre Paris, je le vois, je me dis, mais ce joueur-là, il devrait aujourd'hui... Je comprends pourquoi il a coûté 100 et quelques millions d'euros. Le problème, c'est les blessures, c'est l'inconstance, c'est tout ça.
Fragilité.
Mais en termes de talent intrinsèque, c'est du très, très, très haut niveau. Et Dembélé, en pleine possession de ses moyens, je vous dis, il y a très peu de joueurs qui peuvent venir et dire tu peux pas être titulaire en équipe de France. C'est, pour moi, c'est au-dessus de qu'une seconde.
Il y a très peu de défenseurs qui peuvent l'arrêter lancer aussi.
À 100% de leurs moyens, c'est plus fort que Kingsley Coman. Mais Kingsley Coman, lui, enchaîne les matchs avec le Bayern, il n'avait pas ses problèmes de blessure. Donc on se disait, oui, bon, il n'y a pas de débat. Mais dans ce que j'ai vu de Dembélé, il y a un débat maintenant qui va s'installer s'il reste en pleine possession de ses moyens.
C'est l'atout pour le prochain Euro de Didier Deschamps.
Bah avec lui, vous savez jamais.
Parce que le problème est là. Moi, champion du monde,
moi j'adore.
C'est vrai qu'il
j'ai toujours adoré.
Jouer.
Moi, vraiment, c'est un joueur. Moi, il m'avait bluffé dès que je l'ai vu arriver. Et puis dès que je l'ai vu arriver, pour moi, il a tout. Le problème, c'est qu'il lui manque un élément qui est capital et qui fait la différence avec Kylian Mbappé. C'est la constance.
Exactement.
Et la constance, le très haut niveau, c'est la constance. C'est
pas ces derniers mois, on voit une certaine constance, en tout cas.
Oui, ah bah oui, là, c'est les derniers mois avec Barcelone. Alors on ne sait pas, parfois c'était des problèmes de blessure, parfois on avait dit qu'il avait un entraînement invisible qui n'était pas si terrible que ça. Il avait une hygiène de vie pas exceptionnelle, pas le côté je vais sortir pour faire la fête tout le temps, mais plutôt un peu tout fou, arrivant pas à l'heure aux entraînements, ce qui avait fait grincer quelques dents à Barcelone. Alors s'il se remet droit dans le chemin, il a tout pour lui. Il a pied droit, pied gauche, accélération, élimination. C'est pas un vrai buteur, mais il est capable de marquer des buts. C'est ce que j'appellerais une forme de dynamiteur du jeu, capable de dynamiter à peu près n'importe
quel. C'est plus fort qu'Anthony Martial.
Moi, en fait,
c'est plus fort.
Et il me rappelle Ben Arfa un petit peu, moi. C'est-à-dire que c'est un joueur qui peut partir de loin, accélérer et laisser tout le monde derrière lui, ne plus être vu et marquer. Il doit un petit peu canaliser sa finition parce que parfois il se laisse emporter par sa propre vitesse, sa propre vie, son propre talent, mais il est exceptionnel quand il est en forme et qu'il peut enchaîner.
Ce
qui est intéressant aussi, c'est qu'il joue. Alors effectivement, il joue côté droit, mais va se poser peut-être le problème de savoir qui va jouer côté droit.
Si on
repart sur le schéma de Deschamps, le 4-4-2 un peu asymétrique là, qu'on a Rabiot, Griezmann, Giroud à droite, ça va, risque d'être Mbappé.
Je
vois pas comment, si les trois autres jouent, on peut ne pas faire jouer
Mbappé. Je suis persuadé que tu ne pourras pas gagner l'Euro dans les mêmes dispositions que tu as gagné la Coupe du Monde.
Et donc
le profil de joueur que tu vas choisir, et mine de rien, s'il teste comme ça, c'est qu'il a dans l'idée peut-être.
Et puis il faut pas oublier une chose, Habib. Qui jouait lors du premier match de la Coupe du Monde?
Dembélé.
C'est-à-dire que si Dembélé, il est en pleine forme, en pleine position de ses moyens, je pense que Deschamps, il en fait un candidat au titulaire.
Ouais, mais alors,
il le faisait en 2018. Donc en 2022, il ne le ferait pas.
Malgré tout, ce que tu dis est vrai, mais depuis, le statut de Mbappé a atteint des sommets. Et la Coupe
du Monde, il était déjà en 2018.
L'écart s'est creusé quand même en 3 ans.
Oui, c'est sûr.
Parce que ça faisait depuis novembre 2018 que Dembélé avait plus joué en bleu dimanche.
Alors, il y a eu une chose dans ce match, gagné 2-0, mais c'est qu'ils auraient pu gagner 3-0. Cette fois, c'est Kylian Mbappé qui a raté le pénalty de l'équipe de France. C'est le 4e loupé sur les 7 derniers pénaltys accordés à l'équipe de France. Alors, on a cherché. Ça a jamais vraiment influé sur les points marqués par l'équipe de France, parce que ça n'a pas empêché, par exemple, les Bleus de gagner. Mais quand même, Habib, est-ce que les joueurs ne s'entraînent pas? Est-ce que Didier Deschamps ne les entraîne pas à marquer des pénaltys?
Si, ils s'entraînent, mais pas en... Celui de Kylian Mbappé hier, pour moi, est presque téléphoné. On voit dès sa course d'élan qu'il va la mettre là. C'est presque... Il prend ce pénalty et puis je dirais qu'il y a presque un manque de conviction. Alors, on se dit ça parce qu'il le rate, mais quand je vois ce pénalty, je me dis, mais en même temps, dès le début, quand il monte, on a la vue justement derrière le gardien, on se dit, bon, ça peut pas aller ailleurs, quoi.
Mais il avait l'obsession de vouloir marquer, et c'est le petit défaut qu'il a, on le connaît. Quand il y a faute sur lui, il a mal sur le coup. Quand il se relève, il a mal. La première chose qu'il fait, c'est pas d'essayer de se plaindre. Il va courir vers le ballon pour dire personne ne va l'avoir, c'est moi. Donc il était peut-être pas non plus en pleine part.
Je crois que si on répond à la question pourquoi l'équipe de France a-t-elle autant de mal sur les pénaltys, c'est pas parce qu'on est plus nul que les autres ou qu'on est moins bon techniquement. Bah, c'est quand même un geste technique, simple, mais qu'il faut savoir faire. C'est parce que les joueurs offensifs sont obsédés par les records de buts de Thierry Henry, de Platini et des autres, et ils veulent à tout prix marquer
Giroud
un
l'a mis,
de...
par exemple.
Ouais, alors, non, sur mais, les 7 derniers,
Griezmann en a raté beaucoup avant d'arrêter. Mbappé, là,
septembre 2019, Griezmann en a raté 3.
C'est énorme.
Mbappé 1, et alors, c'est l'autre, celui qui les marque à chaque fois, c'est Giroud.
En gros, le joueur qui tire les pénaltys, c'est celui qui sait le mieux les tirer. Ça ne doit pas être celui qui peut battre le record de Platini.
C'est les Messi. Messi, on a raté un paquet. Mais... Pourtant, on parle d'un joueur qui est. Je pense qu'à un moment
il
donné,
il cherche trop des records individuels.
Non, mais je pense qu'à un moment donné, psychologiquement, quand tu as ce truc un petit peu latent de dire, bah lui il a raté, je sais pas, t'as l'impression que peut-être ça.
Est-ce que tu ne penses pas
c'est dans la tête, Habib?
Oui, c'est dans la tête.
Plus que s'entraîner et préparer le geste.
C'est un geste technique qui est normalement simple à réaliser. Alors après, il y a une pression qui s'installe. Par rapport à l'événement, mais je suis pas sûr que le Kazakhstan à 2-0 soit une pression
sans
immense
public,
pour Kylian Mbappé. Donc il y a je pense un contexte, et je le dis encore une fois, c'est il y a des spécialistes vraiment du pénalty. Il y a toi, des joueurs qui sont.
C'est toi qui vas être entraîneur, tu verras bien, parce que moi, pour avoir discuté avec des dizaines d'entraîneurs, je peux vous dire, j'ai eu tous les sons de cloche. On fait des entraînements avant les matchs, on n'en fait aucun, on s'en fout pas. Et puis au final, vous voyez qu'il n'y a, y a aucune vérité. Parfois, vous n'entraînez pas, vous marquez, vous entraînez, ça tout passait le jeudi ou le vendredi, et le jour du match, il n'y a rien qui
non,
passe.
Mais est-ce que Habib, tu ne penses pas que le fait qu'il y ait cette pression sur le record individuel du nombre de buts, ça met une pression supplémentaire aux joueurs au moment d'aller tirer.
Tu penses que Griezmann
ben, un peu.
Parce que Mbappé, je veux bien, mais Griezmann
un peu quand même.
Ben écoutez, on verra au prochain match aussi. Hein.
Giroud.
On se posera la question. On le fera rentrer pour ça. C'est la fin de cette émission Radio Foot International. Merci à tous de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous évidemment à demain. Merci à tous.
Radio Foot International vous a été proposé par l'application de transfert d'argent Rapid Transfer International, la solution simple, rapide et ultra sécurisée pour transférer de l'argent en Afrique.